Transhumance.
Ce soir, la ville de Mostaganem. Amis auditeurs, bonsoir. Ce soir, donc, l'équipe de Transhumance, après le Grand Sud et l'émission sur Taman Rasset, nous vous proposons ce soir d'aller à la découverte de la ville de Mostaganem, ville située à environ 100 km à l'est d'Oran. Cette ville, qui possède un patrimoine, qu'il soit historique ou en rapport avec le patrimoine populaire, d'une grande richesse, est également une ville de théâtre, de poésie populaire, dont la figure emblématique est sans conteste Sidi Lakhdar Ben Khelouf, mais aussi ville qui fut le théâtre de batailles restées célèbres comme la bataille de la Marta. C'est donc toutes ces aventures que nous allons tenter de vous narrer. Vu l'importance et la diversité des sujets abordés, nous déclinerons Mostaganem en deux parties pour vous permettre de mieux cerner la richesse de son patrimoine.
avec le professeur Benaïssa Abdelkader Moustrami, une personnalité incontournable, dès lors qu'il s'agit de parler de l'histoire multiple de tout court, de l'histoire littéraire et artistique de la ville de Mostaganem. Le professeur Benaïssa Abdelkader a écrit dans les deux langues, en langue nationale et en langue française, sur un certain nombre de contributions à la connaissance de Mostaganem, de sa région, de sa culture, de son art. Parmi ses écrits, Grammaire arabe complémentaire, dans les années 50, en 1956, une publication sur le poète tunisien, le grand poète tunisien Boulkassem Chabi. Sur l'histoire de Mostaganem, 1967, aperçu historique sur Mostaganem et sa région. Bel Arabiya, dans les éditions de la Zawiya al-Alawiya, Mostaganem wa ahwazuha abra al-usur, tarikhuha wa thaqafatuha wa tarikhiyan wa fanniyan wa thaqafiyan. Directeur artistique de la grande troupe de Saïdia qui a été à l'origine de l'éclosion de talents multiples au niveau de Mostaganem, Annales Mostaganemoises et d'autres ouvrages que nous ne pouvons citer tant ils sont importants. Professeur Benaïssa Abdelkader, merci de nous accueillir chez vous. Si nous devions parler comme ça par rapport à toutes vos contributions sur l'histoire de Mostaganem et si on devait vous infliger la punition de nous en parler en quelques minutes. Mostaganem. D'abord, les sources historiques sur Mostaganem, sur l'histoire de Mostaganem.
Enfin, je suis vraiment honoré de votre présence. Vraiment, vous m'avez comblé. Vous avez cité un certain nombre d'ouvrages sur Mostaganem et autres. À vrai dire, ma mémoire est défaillante, mais toujours est-il que je vais m'efforcer de vous répondre le plus clairement possible et le plus d'une façon audible. Il paraît, d'après certaines ressources, le Mostaganem vient d'un mot phénicien, de deux mots phéniciens, Muristaga. Muristaga, berbère, deux mots berbères. Mais enfin, c'est des mots phéniciens. Muristaga, ça veut dire la vallée des roseaux. Et c'est précis, Mostaganem. Elle abrite ces deux mots. Il y a une vallée des roseaux, effectivement. Et puis on a dit Mostaganem, on a dit Muskelganem, on a interprété. Mais enfin, la vraie source, elle est citée par un historien français. Il paraît que à l'origine, elle s'appelait Keltedia. C'est un ensemble de hameaux, et on l'a nommée Keltedia. Mais l'histoire a prouvé que c'était Muristaga. C'est Muristaga, puisque cette Muristaga qui a été utilisée par les Romains, parce que dans les environs immédiats de Mostaganem, Yedlen par exemple, Arze, Chélif, c'est des bastions à 20 km de distance, pour qu'on puisse, pour que les gens puissent, les Romains puissent se ravitailler, et s'il y a une incursion quelconque, eh bien, ils sont là pour répondre. Yedlen. Yedlil surtout, Yedlil, Arze, Batiwa, où les vestiges demeurent encore. Chaibia, c'est une ville phénicienne. Chaibia, nous avons fait des découvertes là-dessus. Mais j'ai consulté beaucoup d'ouvrages pour arriver à ce résultat. Des ouvrages d'anciens. J'ai fait également moi-même des recherches. Par exemple, Hamid Moussa, nous avons trouvé des vestiges qui remontent à des millénaires. C'est des vestiges. À Mimoussa, un cimetière où il y avait des signes phéniciens. Comment on appelle ça ? Le shéhed, la pierre tombale. La pierre tombale était écrite en langue phénicienne. Et elle était incrustée dans le tuya. C'est le tuya, dans le tuya. Ce n'est pas une pierre. C'est un tuya qui a été imagé avec des signes phéniciens. C'est vous dire que à la ville qu'on appelle Hamimoussa, on dit Hamimoussa, mais enfin Hamimoussa, le célèbre poète et écrivain arabe qui a vécu, qui a construit, qui a reconstruit cette ville, puisqu'il y a des vestiges romains.
Mais dans la longue histoire de Mostaganem, cette ville a commencé véritablement à prendre de l'importance à partir de la période mérinide.
islamique, disons, en tout état de cause, c'est islamique, c'est Ménélide, oui, parce que la ville a été, le château, le kasba, la prison civile, c'est une prison qui remonte surtout elle a été restaurée sous Youssef Ndachvin, vers 1090, ça a été restauré.
Donc, la période almoravide.
Mais je vous dis, les recherches qui ont été effectuées, nous avons trouvé également à Sidi Mohamed Ben Ali, ici là, deux pierres qui ont été incrustées, voyez-vous, de signes phéniciens. C'est deux pierres, de longues pierres, qui ont fonctionné quelques 1,40 m de longueur. J'en ai fait une exposition une fois à Mostaganem. J'en ai apporté une du musée d'Oran. C'est des pierres qui ont été découvertes en 1936 lorsqu'ils avaient c'est Hassidi Mohamed Ben Ali. C'est quand on avait commencé à construire la PC de Sidi Mohamed Ben Ali.
جرات لي شلا ما يشاف صارت ليا بيني وبين مصباح خلا بي شاطنا نكرتني وجفتني وهجرت بعد التولاف مرت وغدرت منين كلمتها بخلاتنا صرت معاها طلب الشرع زادتني الشغف صنلتني المداعيين للقاضي قلتي فكنا يا قاضي ناس الغرام ليك دعيت الملف ما زرتني هذا شحال حتى تفصل بيناتنا أوعدي هذا شحال حتى تفصل بيناتنا يا قضي ناس الغرام ليك دعيت الملف ما زرتني هذا شحال حتى تفصل بيناتنا أوعدي هذا شحال حتى تفصل بيناتنا قلت له يا قاضي ناس الغرام لله قلت له يا قاضي ناس الغرام بيني وبين ولفي حكم علينا شرع الهوى يا قاضينا شوف من هو ظلم فينا زلغت بيا دون جنية غير نكرت وهجرت ترصمنا وانا بيها مسخيت من ذنبي ما يخاف من بعد الإشراط طايلة هجرتني يا سيدنا من بعد الإشراط طايلة هجرتني يا سيدنا يا قضي ناس الغرام ليك دعيت الملاف ما زرتني هذا شعال حتى تفصل بلادنا أوعدي هذا شعال حتى تفصل بلادنا في غدرت من بعد الإشرا والطعام في غدرت من بعد الإشرا والطعام وأنا ما قدرت على فرقتها ملكتني بمحبتها دعيتها ليك تحدتها يا قاضي وأنا راضي الحكام قبلت ومن تفصلنا حرمت من قراك الفقيه وحرمت الإسلاف دخيل البخاري مع خليل تبادر بفصالنا الشيخ البخاري مع خليل تبادر بوصالنا يا قضيناش الغرام ليك تعيد الميلاد ما زرت لي هذا شحال حتى تفصل بيناتنا أوعدي هذا شحال حتى تفصل بيناتنا.
D'évoquer avec le professeur Ben Issa Abdelkader les premiers temps de l'histoire de Mostaganem qui, du point de vue des sources, a été reconstitué à partir de recoupements historiques. Et nous abordons la période moderne, enfin contemporaine, qui commence avec les Mérinides. À partir des Mérinides, la ville de Mostaganem est devenue une grande ville. Elle a été à un certain moment capitale du Beylika de l'Ouest. Et donc, si Ben Issa Abdelkader, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus?
Enfin, à vrai dire, Mostaganem avait joué un rôle très important dans son rôle historique. L'ouvrage qui a été publié par le docteur Shaw, eh bien, il précise que Mostaganem a été considéré comme étant le second siège important de l'Oranie, avec en premier lieu Tlemcen, et qui vient après Mostaganem. C'est-à-dire que Oran ne jouait pas son rôle, puisque la ville d'Oran a été sous la domination
espagnole. En plus, on peut parler de la période coloniale également. Donc, la résistance de l'émir Abdelkader était très active dans la région, qui a connu aux portes de Mostaganem l'une des plus grandes batailles entre l'émir Abdelkader et les forces d'occupation coloniale, la bataille de la Makta.
La bataille de la Makta, c'était une victoire de l'Algérie tout entière sur la colonisation. À vrai dire, la plus grande défaite que la France ait connue, elle l'a connue à la Makta, parce qu'il connaissait la région. L'émir Abdelkader connaissait la région, il était élève dans la Zawiya qui porte le nom de Sidi Abdullah. Et c'est pourquoi il connaissait la Makta, il la connaissait très bien. Et en attirant les forces françaises ici-là, par le général, je crois que c'était le général Trezel, lequel était venu comme conquérant, et pour rétablir l'ordre en Algérie, eh bien, il est retourné, le général Trezel, battu. Et c'était la plus grande défaite, et la France a toujours omis de la citer. Parce que c'était un souvenir qu'elle s'efforçait de ne pas mettre en relief. Le Mazagran, c'était pour conquérir Mazagran, il fallait prendre le bastion de Mazagran. Alors, deux essais ont été faits avant par les Espagnols, par le maréchal, par le comte de Caudete, qui, une fois, il s'est fait accompagner par le cardinal Ximénez, et en incitant ses soldats chrétiens pour dire qu'il fallait battre les musulmans. C'était pas il ne voulait pas prendre la Mostaganem seulement pour la prendre, mais il fallait. C'est une revanche que le cardinal voulait avoir sur Mostaganem, sur l'Algérie tout entière. Les deux fois, la seconde fois, le comte de Caudete a trouvé la mort. Lui, son fils, et un deuxième fils qui est tombé prisonnier emprisonné par. Et dans ce combat, il y a eu la présence de Sidi Khadr Bakhlouf, qui cite Qasid Mazagran Ma'louma. Il la cite avec précision. C'est un homme quand même intègre. Il n'a pas voulu violer l'histoire. Il a reconstruit l'histoire pour l'avoir vécu. D'autre part, Mazagran a reçu également la grande défaite qui a été imagée par un artiste français, la bataille de Mazagran, reprise par Moulay Ismail, un artiste peintre de Mostaganem, qui a également repris cette image, où il y avait vraiment, on voyait ce combat, un combat vraiment houleux.
Houleux et épique.
Ah oui.
Mazagran a constitué un haut lieu qui a cristallisé les résistances tant à l'époque turque qu'à l'époque où d'autres villes algériennes étaient occupées par les Espagnols, notamment Oran à l'ouest et Béjaïa à l'est. Il y a eu un acharnement particulier de la colonisation, aussi bien du temps de, si on peut dire, que les Espagnols, dans leur ardent désir de reconquista, ils se sont focalisés sur Mazagran, et ensuite la colonisation aussi a fait de Mazagran un symbole. Mais chaque fois, ils ont pris, pour reprendre une expression populaire, ils ont pris une tannée.
Oui, c'est le terme à vrai dire, parce que le capitaine Lelièvre, sa résistance n'a pas été vaine. Il a résisté avec ses soi-disant 24 ou 124 soldats. De toute manière, il y avait le capitaine Bettemi qui était là, le capitaine Bettemi avec l'amir Abqadr. Ils lui ont infligé une défaite extraordinaire, puisque son passage est marqué par la colonne, on ne cesse pas de dire la colonne Lelièvre. La colonne Lelièvre qui est actuellement, elle n'a pas été enlevée, elle existe toujours comme symbole de la défaite, de leur défaite, et symbole de la victoire des Algériens sur les Français. Pour dire que, c'est pour ainsi dire, je voudrais revenir simplement à ceci, c'est que je voudrais mettre comme l'accent là-dessus, c'est les artistes en France ont manifesté contre la colonisation. Ça, c'est une. Les artistes français comme les écrivains, d'ailleurs la Bakriade que je cite précisément dans l'Amir Abqadr, la Bakriade, c'est une œuvre qui a été publiée, théâtrale, qui a été publiée. On a donné la séance à l'opéra de Paris en 1816, je voudrais être précis.
De haut lieu de la résistance contre la reconquista espagnole et contre les appétits colonialistes, Mazagran, après sa chute, est devenu dans le dictionnaire français, a pris un autre sens.
Oui, je prends à Mazagran et je file. Ça, c'est l'expression qu'on retrouve dans le dictionnaire français. C'est-à-dire, je prends une boisson qui veut dire une boisson fraîche, rapide et rapide.
Voilà. Donc, le symbole de la soumission, de la domination, de la consommation.
Toujours concernant l'histoire de la région, en rapport avec une période douloureuse de la mémoire algérienne, les enfumades du Dahra. Amr Belkhodja, qui nous vient de Tiert, et Mustafa Abdelrahman, qui entreprennent un travail sur la mémoire, plus précisément sur les crimes coloniaux, crimes qui ont fait l'objet de la réalisation d'un documentaire vidéo sur les enfumades du Dahra. Très peu connu du grand public, cet épisode de l'histoire algérienne est digne d'intérêt. Nous vous proposons d'écouter un extrait de ce document, suivi d'un entretien avec messieurs Belkhodja Amar et Abdelrahman Mostafa.
Il y a dans le Dahra deux cavernes historiques dont il convient de rappeler ici le drame qui s'y produisit en 1845. La caverne de Nekmaria, où Pélissier enfuma en juin de cette même année toute une fraction des Ouledriyah.
Un millier d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards avec leur bétail furent asphyxiés à Rar el-Freshia. Ce fut un acte d'une cruauté sans pareil, un fait des plus troublants, un spectacle hideux et un épisode d'une guerre barbare que les Français eux-mêmes n'osaient décrire.
Camp Robert, Cavaignac, Saint-Arnaud et surtout Pélissier, quelques spécialistes des opérations en grotte. Deux de ses officiers supérieurs, comme par émulation, avaient en effet, à quelques mois ou quelques années d'intervalle, trouver un moyen expéditif de réaliser le plus grand nombre possible de victimes sans tirer un coup de feu. L'année 1844, entre autres, avec Cavaignac, voit la première application d'un système qui ressemble à celui des chambres à gaz. Les étouffoirs, ici, étant remplacés par des grottes et le gaz par les fumées d'un feu qu'on entretient pendant de longues heures, souvent pendant des jours. En 1844 donc, nous dit Camille Rousset, Cavaignac opérait sur la rive gauche du Schlieff, chez les Sbires, qui s'étaient retirés dans leur grotte. À toutes ces sommations, ils avaient refusé de se rendre. Alors le colonel avait donné l'ordre d'attaquer une des grottes par la mine et il avait fait allumer un grand feu devant l'issue d'une autre. Le lendemain, les assiégés, dont quelques-uns étaient déjà morts d'asphyxie, avaient enfin consenti à sortir. Ce fut là d'ailleurs un premier essai. Et comme l'impunité est une sorte d'encouragement, l'année suivante, en 1845, dans le Dahra, un autre colonel, Pélissier, va se surpasser. Les Ouled Riah s'étaient réfugiés avec leurs femmes et leurs enfants dans des grottes où ils avaient été enfumés. Des fagots de bois avaient été allumés par l'armée pendant plus de 24 heures. Voici en quels termes l'historien Camille Rousset raconte cette scène d'horreur.
L'incendie avait gagné les bagages des réfugiés. Pendant la nuit, on crut entendre un bruit confus, des clameurs sourdes, puis rien ne troubla plus le silence. Longtemps avant le jour, quelques hommes, suffoquants, vinrent tomber devant les sentinelles. Une fumée si épaisse et si âcre emplissait les grottes qu'il fut impossible d'y pénétrer d'abord. Cependant, on en voyait sortir de temps à autre des êtres méconnaissables qui rampaient et que d'autres, fanatisés jusque dans l'asphyxie, essayaient d'arrêter. Quand on put enfin visiter la fournaise éteinte, on y compta plus de 500 victimes. Hommes, femmes, enfants. L'étendue de ce désastre frappa tous les assistants de stupeur. Ce plus de 500 victimes dépassait en réalité le millier.
En cette année 1845, la révolte dirigée par Boumaza battait son plein. Cela faisait déjà 13 années que l'émir menait un combat acharné contre la colonisation française qui avait mis tous les moyens au service de Bugeaud et de sa politique de la terre brûlée. Car, ne pouvant vaincre militairement les Algériens, Bugeaud voulut les contraindre par la ruine et la famine. Boumaza avait dû plier sous la force des troupes françaises armées, utilisant l'artillerie. Il se replie vers les montagnes de Loire-Senis, poursuivi par l'armée coloniale, dirigée par Bugeaud en personne et secondée par Saint-Arnaud. Boumaza, affaibli, diminue l'intensité de ses attaques. Il ne se rendra que le 13 avril 1847. Mais l'agitation est grande dans le Dahra et toute la vallée du Schlieff. Bugeaud, rappelé par ses obligations, il est gouverneur de l'Algérie, rentre à Alger, laissant le soin à Saint-Arnaud et à Pélissier, qui n'était alors que colonel, de continuer le travail. Saint-Arnaud se dirige vers Aïn Témouchent et Sidi Ibrahim, où l'émir allait infliger à l'armée française une cuisante défaite. Pélissier, lui, pénètre dans le Dahra avec ses troupes. Sur sa route, il massacre la tribu des Benizentis et entreprend de mettre à sac, méthodiquement, le territoire de la tribu des Ouled Riah. Il se plaçait ainsi dans la tradition de l'armée d'Afrique inaugurée par Rovigo, qui fit massacrer dans la nuit du 7 avril toute la tribu des Roufia dans la Mitidja.
Ce qu'il y a lieu de dire, de révéler, c'est qu'on a l'impression que les conquêtes coloniales se sont déroulées comme des affrontements classiques entre une armée d'agression et des armées qui se sont constituées pour défendre le sol. Non, ce n'était pas tout à fait ça. C'est que toutes les guerres coloniales qu'elle soit française, anglaise, italienne ou belge.
C'est Ammar Belkhouja.
Cela n'a été qu'un cortège de massacres. C'est-à-dire que le comportement des armées d'agression a été un comportement indigne de l'humanité. Et quand nous remontons dans le temps, pour questionner le temps, pour essayer de reconstituer tant de pages qui sont aujourd'hui oubliées et que nous tentons modestement avec notre ami Abdelrahman Moussa de reconstituer, d'exhumer. C'est-à-dire que il y a aujourd'hui, nous assistons à une sorte d'effacement de la mémoire. C'est-à-dire, personne ne veut parler de ce passé colonial. Si l'ancien colonisateur refuse d'évoquer ces pages, pourquoi? Parce que vis-à-vis des générations, des générations, cela va le gêner. C'est-à-dire qu'il y a quand même, ce sont des pages de culpabilité, des pages honteuses. Mais nous, Algériens, nous avons le devoir d'entretenir cette mémoire et d'exhumer ces pages tragiques, notamment tout ce cortège de massacres, en citant notamment les enfumades du Dara, dont l'un des documentaires vient d'être signé par notre ami Abdelrahman Moussa. Cela, c'est pour essayer d'enseigner, de dire attention, n'oublions pas. Non pas pour cultiver, comme je l'ai dit tout à l'heure, cultiver un sentiment de haine ou de vengeance, non. Essayer d'entretenir la mémoire collective, non pas uniquement pour nous Algériens, mais pour toute l'opinion, la conscience humanitaire, la conscience française aussi, l'opinion française. C'est à ce moment-là que nous pouvons envisager l'entretien de l'amitié entre les peuples. C'est d'assumer cette histoire, de l'assumer sans honte, sans... voilà ce que j'ai à dire. Et il y a tant de choses à faire, mais ce sont les moyens qui font défaut. Je vous dirai à titre d'exemple, nous avons travaillé ensemble sur un documentaire intitulé « Les cuves à vin ». Depuis 1996 à 2000, c'est-à-dire 4 ans, ce n'est que tout récemment que nous avions pu mettre au point un documentaire de 30 minutes. Alors qu'en 4 ans, nous pouvons quand même réaliser 4 ou 5 documentaires. Donc, nous travaillons avec les moyens de bord, avec une volonté, et c'est insuffisant. Je crois qu'il faut que l'institution, il faut que l'État s'engage avec tout ce travail colossal qu'il y a lieu à faire. Il faut défricher le...
Mais est-ce que votre travail rencontre un écho favorable, ou est-ce que c'est encore une question qui dérange, ou alors des pans de l'histoire qui doivent rester occultés? Parce que là, il y a quelque chose qui se passe qu'on ne cerne pas très bien.
On ne trouve pas le... Il faut que le déclic ne s'est pas encore opéré. Alors, je ne sais pas à quel niveau nous allons le localiser, mais toujours est-il que nous essayons d'occuper l'espace. Hein. À chaque fois qu'il y a une activité culturelle quelque part, hein, Tiaret, Moussaganem, Oran, Tlemcen ou Tebessa, allez, nous emportons les cassettes, les enfumades du Dara et les cuves à vin pour essayer de les projeter. Peut-être que nous allons déclencher ce besoin de leur assurer une large diffusion. Il y a la duplication qui coûte cher. Il y a comment les diffuser. Est-ce que ça sera l'éducation nationale, ça sera l'université, ça sera la télévision? On ne s'est pas encore posé cette question. Et on n'a pas fait la démarche aussi. Je ne sais pas le moyen qu'il faut entreprendre pour assurer une large diffusion à ces documentaires qui restent méconnus. Hein, et c'est regrettable.
Je crois qu'il y a une méconnaissance qui s'est installée comme ça. Et par rapport à ces crimes, l'exemple que vous nous avez raconté tout à l'heure au cours du salon de la vidéo à Tebessa, où vous vous êtes entendu dire que ça ne nous concerne pas. Ce martyrologue n'est pas, je ne sais pas. Vous...
Oui, tout à fait. Je pense que c'est on peut mettre ça sur le compte de l'ignorance.
Racontez-nous cette histoire.
Oui, moi je présentais la première fois donc en 93 et dans le salon de la vidéo et du cinéma à Tebessa. Et puis quand on participe, c'est ça, c'est un autre honneur de voir, d'aller dire quelque part en Algérie, s'est passé un crime abominable, un crime contre l'humanité qui reste méconnu, inconnu, pas largement diffusé. Donc, des personnes dans le jury sont restées un peu, disons, ambigu, ils ne savaient pas, ils étaient perplexes. Et ils ne savaient pas à quel moment de l'histoire de l'Algérie
s'est passé.
Parce que pourquoi ils avaient mis durant ce festival du cinéma donc tout l'accent sur la période de 54 à 60, dans 10 ans la guerre a commencé en 54 et fini avec l'indépendance en 1962, que tout le reste était mis sous le compte, on m'a dit de la résistance. J'ai trouvé cela tout à fait
non conforme à la réalité.
Tout à fait non conforme.
Disons que c'est une forme de classification un peu abusive, quoi.
Oui, entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Et là, ce n'est pas ça. Moi, je pense que ça m'a pas déprimé. Au contraire, c'est à partir de là qu'avec mon ami Brojan, on s'est encore remis au travail. Nous ne nous sommes pas, disons, pleinement satisfaits quand on fait un travail. Il y a toujours, je vous l'ai dit tout à l'heure avant la projection, que nous étions en train de revisiter, de revoir le travail dans sa durée, même sur le support images, commentaires, etc. Nous avons à peu près, à partir de là, on s'est dit, moi je leur ai dit, Kati Bessak, il y avait à côté, dans le CUIF, un crime contre l'humanité qui s'est déroulé en 1959, où on avait gazé une population d'un douar. C'est bien ça. Donc on avait exécuté de sang-froid 112 personnes. C'est vous dire que de Tébessa à Tlemcen, dans tous les coins d'Algérie, il y a des choses à faire. Et nous ne pouvons pas nous occuper de tout. Nous avons fait difficilement la production de ces deux petits documentaires modestes qu'on arrive à projeter tant bien que mal dans des rencontres ici ou ailleurs. Mais ce n'est pas suffisant. Comme l'a dit si bien mon ami Bouja, c'est vrai que ce n'est pas suffisant. Il faut s'intégrer dans un tout.
Est-ce que ces travaux ont fait l'objet d'une thèse? Ou alors, à la limite, est-ce qu'ils sont inscrits dans l'histoire officielle? Parce qu'on pourrait dire que même ils devraient être dans les manuels scolaires, parce que c'est encore une tranche de notre histoire qui est assez occulté. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette réalité.
Hélas, encore une fois. Histoire officielle, je ne sais pas. Moi, j'ai commencé mes recherches en parallèle avec M. Brojan à partir du peu qui a été écrit par notamment les auteurs algériens. Donc, je fais référence à Moulay Belhamissi, je fais référence à Mustafa Al-Sharaf, je fais référence aux travaux de M. Brojan. Mais je fais aussi aux références, vous avez dit tout à l'heure, est-ce Pélissier qui a dit ceci ou cela? Eh bien oui, monsieur, tout à fait. Ce sont les écrits de ces officiers de la conquête qui sont vantés en public et par écrit, qui ont laissé des traces. Les lettres de Saint-Arnaud sont connues, les rapports de Bugeaud et du reste. Donc nous avons puisé un peu notre inspiration sur ce qui a été réellement dit pour massacrer les populations sans défense civile, les populations notamment rurales, dans le premier documentaire que vous avez vu tout à l'heure, dans le second aussi, où on a innové, si on peut dire, entre guillemets, une manière de tuer collective en disant, bon, c'est vous dire, monsieur, que ça a commencé dans la région de Tlemcen, mais ça s'est multiplié dans là où il y avait un soupçon de vignoble et là où il y avait un soupçon de cave. Et documentaire comme ça, il faudrait peut-être un peu le montrer davantage. Nous en sommes, je pense, à la centième projection. Ce n'est pas suffisant. Je vous ai dit que je suis en train de le revisiter avec M. Brojan, parce que nous avons d'autres informations et on voudrait commencer un peu par les massacres qui ont précédé celle des Enfumades, notamment celle des Oufia dans la Métidja, celle des Hadjout toujours dans la Métidja et celle dont on a discuté il y a deux jours. Le commerce des ossements, il faut en parler aussi, donc on voudrait l'aborder prochainement, le commerce des ossements, 10 cimetières algériens où on exportait donc à des fins industrielles, pour notamment...
Une sordide industrie, quoi.
Tout à fait, une sordide industrie qui est rapportée par les historiens, qui est apportée aussi par les colonisateurs, qui est rapportée par les militaires, et de comment, à partir de l'Algérie, transférer des ossements humains pour en faire une utilisation industrielle pour la fabrication du sucre blanc. une chose qui a été à l'époque interdite, l'émir Abdelkader à son époque avait proscrit l'usage du sucre blanc. Imaginez l'abominable chose à cette époque-là.
سلطان البلاد ولد الرصنية سلطان السلطانة والحوش باب في كل بلاد ليك قنبة مبنية بحر المحيط بالرمل وحجر وتراب كفك جميع الكنوز الخفية قنبة مبنية بحر المحيط بالرمل وحجر وتراب كفك جميع الكنوز الخفية من كل بلاد ليك ويخدموا الأركاب حبشي وحرار كلهم ليك رعية أسلك السهولة للشرق وتغرب انتي الغوبي دبد البحرية سلك السهول للشرق وتغرب وانتي الغوبي كمية دبد البحرية سلك اللي يسير بيدين الطلاب جبار الليالي من الرسم وتية اطفي ضري في طيب ضر المشهاب من بعد اللي تكون ناره مقدية ولا ضري ضرس ليه انت كلاب حين تنحيه ليس ما تبقى حية ولا ضري صيد ليه تكون عقاب تتبدل ليهم البلاد الخافية ولا ضري صيد ليه تكون عقاب تتبدل ليهم البلاد الخافية قلب الكافر ما يحنان ولا يرطاب لا تفكر فيه دعوه اللي كم منسية حرم نومي انبات نتقلب تقلاب غير الشمعة قصر الليل معايا غايضها حالها دمعتها الهراب فوق الحسكة دموعها بزاف قوية قلت لها واش من هذا الأمر وتشغاب قالت لي وها شيخة هذه قاصية
Notre troisième sujet pour cette première heure de Transhumance consiste en un entretien avec M. Oulahsi, artiste peintre, qui va nous parler de son village qui fut jadis fondé par une colonie prussienne. Colonie que l'infortune et une expédition qui devait les conduire vers le Brésil tourna mal.
Alors, nous poursuivons notre plaisir parce que nous nous trouvons chez M. Oulahsi Mohamed, qui est artiste peintre. Il est difficile pour moi de décrire le décor dans lequel nous nous trouvons, en tout cas dans un très beau jardin, dans la ville de Stidia, qui est à 13 km de Mostaganem. Alors, M. Oulahsi Mohamed, merci de nous recevoir chez vous. Je disais que c'était indescriptible, une belle maison, un beau jardin et attenant à un bel atelier, tout ce dont peut rêver un artiste peintre. On parlera un petit peu de vos peintures tout à l'heure, puisque vous peignez depuis de longues années, vous exposez en Algérie et aussi au-delà de la Méditerranée. Pour la petite histoire, alors moi je commencerai, bien sûr, on dit que les Prussiens, c'est vrai, c'était vérifié, sont arrivés à Stidia en 1847, donc 15 années après la colonisation.
Oui, pour la petite histoire de Stidia, fondée par des Prussiens, que dans l'histoire de la colonisation algérienne, il n'y a pas beaucoup de Prussiens qui ont fondé dans la colonie de peuplement que fut plus tard l'Algérie. Donc c'est des Prussiens qui sont arrivés, M. Oulahsi nous en parlera. Mais aussi il y a la grande histoire, puisque la Stidia est située sur le passage du méridien de Greenwich en Algérie.
Mmh.
La Stidia, ça a été une création, une entière création. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien au lieu. À la Stidia, il n'y avait pas de bâtiment à l'époque que nous connaissons. Enfin, Stidia, le nom de Stidia est tiré du mot arabe Stidia, qui veut dire eau fuligineuse. Que vous dire de la Stidia, ce fut une création, bon, je reviens là-dessus. C'est les militaires qui avaient installé des Prussiens, des Prussiens qui étaient destinés en début à une émigration vers les Amériques, mais qui malheureusement escroqués se sont retrouvés, dans le cadre de peuplement par les Français, se sont retrouvés à Mers-el-Kébir. Puis de Mers-el-Kébir, ils furent menés à ces endroits-là. Et ils ont créé, avec l'aide des militaires de l'époque, puisque c'était les militaires qui les avaient installés, ils ont commencé à bâtir ce village-là. Et ils l'ont bâti, quand ils sont arrivés par la côte. C'est-à-dire que la route Oran-Moustaghanem n'existait pas. Et le Magda n'existait pas. Je veux dire, ce n'était pas un lieu de passage tel que maintenant. Donc ils ont dû bâtir le village par la mer. Et le livre de la création de Stidia raconte un peu tous ces événements.
Livre écrit par l'un des derniers maires de Stidia avant le...
C'est le fils de l'un des derniers maires, c'est Michel Drosson, qui est le fils de l'un des derniers maires de Stidia. Les Prussiens qui étaient là ont vécu, bien sûr, de l'agriculture, de petits élevages. Mais ils se sont installés dans l'agriculture de la vigne, dans la culture de la vigne, surtout depuis le phylloxéra en France. Et c'est à partir de ce moment-là où ces paysans, enfin, de paysans, c'était des artisans de différents métiers, mais beaucoup étaient agriculteurs. Et c'est à partir de ces années-là qu'ils ont commencé à prospérer, justement. La vigne a fait prospérer ce village-là. Et la plupart des maisons, quand on regarde un peu certaines maisons, elles ont été construites en plusieurs étapes. Celle où je suis, par exemple, a été construite en plusieurs étapes. On voit d'abord le premier bâtiment modeste, très très modeste, qui a été construit certainement à leur arrivée, peut-être amélioré au fur et à mesure. Et puis, après, bon, quand il y a eu une sorte de petit enrichissement, on voit le bâtiment qui s'est fait un peu plus spacieux et un peu plus moderne. Voilà l'une. Et on dit, enfin, le livre rapporte que Stidia avait d'excellents vignobles, de par ses terres sableuses, avait d'excellents vignobles. Voilà. Et il y avait à l'époque, à Stidia, il doit y avoir au moins une vingtaine de caves. Enfin, à l'époque, il y avait au moins une vingtaine de caves, avec une très grande cave coopérative, qui date des années 1930. C'est-à-dire que la vigne était quelque chose de très, très important.
Alors, 13 kilomètres de Moustaghanem, vous êtes donc pas si loin. Votre perception d'artiste peintre sur la ville, bon, c'est une ville où il y a... ville portuaire, il y a la mer. Vous, en tant que peintre, si vous deviez la peindre, qu'est-ce qui vous y mettrait?
Enfin, la peindre, peut-être pas, mais de dire un peu mon appréciation de la ville de Moustaghanem. C'est une ville, bon, qui est très attachante, qui m'a tout de suite retenu à mes premiers voyages, avant que je n'habite d'ailleurs ici, qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup... Bon, c'est une ville qui a tout pour plaire. C'est une ville qui n'est pas trop grande pour un villageois comme moi, un natif villageois. Les grandes villes sont tout de suite un peu écrasantes. Puis c'est une mer, bon, c'est une ville qui a la mer, qui a un oued qui est pas loin, qui est magnifique, qui est le Chelef, avec sa vallée qui est extraordinaire. Il y a ces vestiges qui sont abondants aussi. Et puis il y a tous les plaisirs, je dirais, tous les plaisirs gastronomiques qui se trouvent, je veux dire, dans les produits surtout. C'est-à-dire le poisson, les fruits, c'est un pays de fruits, c'est une zone à fruits. Voilà un peu tous les plaisirs.
Quelles sont les choses que vous regrettez, que vous n'aimez pas dans cette ville?
Ce que je n'aime pas dans cette ville, ou ce que je regrette... de cette ville, c'est qu'il y ait des quartiers très 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 beaux qui ont été magnifiques, qui ont été abandonnés ou détruits en partie, surtout la Knetalihoud, Derb, qui est un truc magnifique. Ce qui est regrettable, c'est qu'il y ait des bâtiments malheureusement historiques que l'on laisse périr, donc ce qui fait que c'est une partie de la mémoire algérienne qui s'en va, qui périt. Je suis passé il y a quelques jours devant la synagogue de Mostaganem, qui est un truc fabuleux. C'est un monument magnifique. Il y a des fresques extraordinaires qui tombent en ruine ou là qui c'est l'abandon. Pas plus tard qu'il y a aussi cette semaine, j'ai mené des amis français qui sont venus en balade. Je les ai menés voir une ancienne église à Salamandre, monsieur Salamandre, à Mzgren, qui est un monument exceptionnel, vraiment je dis exceptionnel, de par son architecture, sa construction. Et tout ça se fait de la peine parce que ça disparaît, ça se détruit. Bon, voilà un peu les regrets de la chose. Et d'être un peu témoin de ces choses-là, de ne pouvoir rien faire, c'est aussi un peu lamentable. Mmh. Ça fait de la peine de voir de si belles choses qui partent et qui sont remplacées par... qui sont remplacés par le béton. Là, il y a un truc qui s'est passé dans le village ici et qui m'a fait beaucoup de peine. C'est pas la destruction de l'église qui m'a fait de la peine. C'est la perte des belles pierres qui constituaient l'église, qui avaient servi à la construction de l'église, qui ont été jetées pour être remplacées par du parpaing. Et ça, je trouve vraiment c'est ni économique, ni... Je veux dire... La raison m'échappe.
Pour la deuxième heure de Transhumance, nous parlerons de pêche et de musique en compagnie de Monsieur Nordin Benatia.
يا من حبك في حشايا